Bonsoir. Processus électoral en RDC, le consortium des ONG de la société civile, parmi lesquels Aïta Kojeski, CalCC, Sinecat et le groupe AMO, se propose un calendrier électoral perfectible. Ils prouvent selon eux que la tenue de la présidentielle est possible dans le respect du délai constitutionnel. Ces ONG ont fait cette annonce mardi dernier à Kinshasa. Pour le porte-parole de cette coalition, l'enrôlement des nouveaux majeurs et des Congolais de l'étranger peut se régler en un jour. Comment analyser cette proposition? Pour en parler, je reçois professeur Thierry Landou. Bonsoir. Professeur Thierry Landou.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, professeur. Vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et porte-parole du consortium des ONG de la société civile, Richard Kinoa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien conseiller chargé des questions électorales au ministère de l'Intérieur. Vous êtes également sympathisant de la majorité présidentielle. Étienne Vivien Kalonji, bonsoir.
Bonsoir, estimé patriote Alain Yvon.
Vous êtes politologue et analyste indépendant, également chercheur en résolution pacifique des conflits. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le consortium des ONG de la société civile, parmi lesquels l'AETA, le COGESKI, le CALCC, le SINECAT et le groupe AMOS, lance un calendrier électoral perfectible. Celui-ci prouve, selon eux, que la tenue de la présidentielle est possible dans les respects du délai constitutionnel. Annonce faite mardi dernier à Kinshasa. Kéline Kouté nous en donne les détails.
Le consortium pense que dans 19 jours, la Commission électorale nationale indépendante se rendrait coupable de la violation flagrante de l'article 73 de la Constitution du 18 février 2006, si elle ne convoquait pas l'électorat pour le scrutin présidentiel le 19 septembre 2016. Ces ONG estiment que l'enjeu électoral et de la paix devait, dans le contexte actuel, tourner autour des impératifs de l'alternance politique assortie du strict respect de la Constitution. Pour cette coalition, le dialogue national inclusif ne peut surtout aucunement soumettre aux discussions les acquis sacro-saints du respect de la Constitution, de l'alternance politique constitutionnelle, au risque de briser la souveraineté du peuple, mieux la paix et la stabilité nationale. C'est dans ce cadre restrictif que doivent s'inscrire la planification et l'organisation des élections. Pour ces ONG, le peuple veut être proactif et montrer que l'élection présidentielle est possible dans le temps qu'il nous reste. C'est dans cette perspective que ces organisations membres du consortium lancent un calendrier électoral qui prouve que l'élection présidentielle reste possible dans les délais constitutionnels et invite les Congolais et Congolaises à vulgariser ce calendrier auprès de la population.
Merci, Kéline Kouté. Professeur Thierry Landou, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et porte-parole du consortium des ONG de la société civile. Professeur, expliquez-nous comment la présidentielle peut-elle être organisée en respectant les délais constitutionnels en ce moment.
Je crois que nous avons explicité la chose de manière très claire. C'est que le gros problème qu'on nous pose aujourd'hui, c'est de nous dire que on ne peut pas faire l'enrôlement dans moins de 16 mois. Et nous disons non, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et à situation exceptionnelle, écoutez, on trouve des solutions, on propose des solutions exceptionnelles. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de respecter cette constitution et les dates constitutionnelles qui sont prévues justement pour ces élections. Or, on nous dit qu'on ne peut pas enrôler les Congolais à moins de 16 mois. Ça signifie qu'à ce moment-là, même les dates pour les élections seront dépassées, d'autant plus que maintenant on fait un enrôlement sans nous donner même un calendrier. Alors ce que nous proposons est simple. Nous disons, écoutez, nous avons une élection présidentielle qui va se dérouler dans une seule circonscription, c'est-à-dire le pays. Et cette élection nécessite un enrôlement pour les nouveaux majeurs. Si on doit faire un enrôlement des nouveaux majeurs et des Congolais de la diaspora, mais pourquoi on ne le ferait pas le même jour du vote? Parce que chacun de nous a sa carte d'identité. Du moins, ceux qui ont voté en 2006 et en 2011, ils ont une carte d'électeur qui a servi et qui continue à servir comme carte d'identité. Les enfants, donc les nouveaux majeurs, ils ont entre autres des cartes d'étudiants qu'ils peuvent utiliser comme pièce d'identité. Ils ont aussi des cartes d'élèves qu'ils peuvent utiliser comme pièce d'identité. Et ceux qui n'en ont pas, ils peuvent aller prendre des pièces au niveau du quartier ou au niveau de la commune. C'est une question de confiance, tout simplement, qu'on doit placer dans l'électeur. Écoutez, en 2005, en 2005 lorsqu'on a fait l'enrôlement. Mais on a fait l'enrôlement des citoyens sur base d'une simple, d'un simple témoignage. Donc, je ne vois pas quelle est la difficulté, en fait, d'avoir cet enrôlement-là le même jour. Ceux qui sont à l'étranger, ils ont des cartes consulaires. Ils savent où se trouvent ces ambassades. Ils peuvent aller se présenter pour élire. Le processus que l'on pourrait faire, il est simple, il est même détaillé. C'est-à-dire que vous vous présentez au bureau de vote avec votre carte d'identité et vous vous inscrivez sur une liste. Et après la liste, ben, vous allez voter et après il y aura une autre liste où vous allez signer pour que nous puissions contrôler si effectivement le nombre de personnes qui ont voté correspond au nombre de bulletins que nous avons dans les urnes. Donc, si on a une volonté politique, on peut arriver à faire cet enrôlement et à organiser ces élections-là le même jour que l'enrôlement. Nous avons même du temps, nous avons dit qu'on peut même faire une sorte de pré-enrôlement sur des registres à partir de nos quartiers, à partir des cellules ecclésiales de base pour les milieux des églises. C'est faisable. Je vous rappelle, vous pouvez même interroger un peu le père Léon de Saint-Moulin sur l'organisation des élections en Afrique du Sud, les premières élections de Nelson Mandela. Posez-lui la question de savoir comment s'est fait l'enrôlement. Ils l'ont fait en utilisant des cahiers. Donc, je crois que ce qui fait défaut, c'est vraiment une volonté de pouvoir faire ces élections. Et là, on est en train de tourner en rond autour de la question de l'enrôlement, on est en train de tourner en rond autour de la question de la logistique, autour des questions d'argent. Voilà un peu la logique dans laquelle nous nous trouvons. Et nous voulons qu'on aille justement dans le sens du respect de la Constitution, parce que la Constitution, elle est importante. Elle fixe les dates importantes. Elle fixe les délais importants. Professeur. Elle fixe même les mandats pour les uns et les autres. Si nous ne respectons pas cette Constitution, demain, qui nous dira à quel moment nous irons aux élections? C'est ça le danger.
Professeur, vous avez donné beaucoup d'éléments, mais on sait que la RDC, c'est un pays continent avec des difficultés d'accessibilité. La CENI elle-même a relevé également beaucoup de problèmes techniques. Et vous pensez qu'avec tous ces éléments-là, toutes ces opérations que vous venez de détailler ici peuvent se faire en un seul jour sans problème de façon concomitante?
Écoutez, vous savez, c'est depuis 2006, depuis 2005 plutôt, lorsqu'on a commencé à préparer les premières élections en 2006, on nous disait que c'était un continent, qu'on aurait énormément de problèmes, qu'on ne pourrait pas organiser ces élections. En 2006, on a organisé des élections.
Avec le soutien de la MONUSCO qui a aidé à déployer le matériel et autres.
J'ai là, non ? Les cartes des cartes d'électeurs, nous les avons, non ? On ne va pas nous donner de nouvelles cartes si on dit qu'on fait l'enrôlement le même jour. Nous avons nos cartes, parce que ça sert de carte d'identité aujourd'hui. Pourquoi on va renier ça aujourd'hui? Et en 2011, on a eu les élections, non? C'est-à-dire que nous ne partons pas de zéro. Nous partons de deux expériences électorales, de deux cycles électoraux. Pourquoi on ne veut pas tenir compte de cela? On fait comme si on démarrait un processus avec les mêmes difficultés qu'hier. Non.
Alors, il y a professeur Jacques Capin qui nous écrit de Dilolo qui dit « Il n'y a pas longtemps que l'ONG AETA, par l'entremise de son estimé président, a fait une démonstration robuste sur Radio Okapi qu'au regard des contraintes techniques, un fichier électoral crédible ne s'obtiendrait qu'au-delà de 12 mois. Partant, l'organisation des élections dans le délai constitutionnel serait impossible cette année. Qu'est-ce qui justifie à ce jour ce revirement par ces ONG que l'élection présidentielle soit possible dans le délai constitutionnel? Peut-on qualifier cela de machination politicienne?
Non, écoutez, d'abord, lorsque vous parlez de revirement, lorsque vous regardez toutes les publications de l'AETA, je parle des publications, pas de la déclaration publique de d'un de ses représentants, parce qu'il n'est pas le seul représentant de l'AETA. Hein. Donc, quand vous parlez justement de toutes les analyses qui ont été élaborées par l'AETA, l'AETA a été clair dans son processus pour dire, écoutez, il y avait moyen à chaque étape. L'AETA montrait bien qu'il était possible d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. Malheureusement, dans ce pays, le problème c'est quoi? C'est qu'on a traîné avec le processus. C'est depuis 2011 qu'on devait préparer les élections de 2016. C'est au sortir du cycle de 2011 qu'on prépare les élections de 2016. Eh bien, vous savez quelles sont les péripéties dans lesquelles nous nous sommes retrouvés dans ce pays. Hein, tantôt on parlait de glissement, de référendum, de loi électorale à remodifier, du recensement à inscrire comme condition pour pouvoir organiser les élections, la création de l'ONIP, on va recourir à la Cour constitutionnelle. On est là. Pendant des années, on a tourné en rond parce que volontairement, on ne voulait pas organiser ces élections. Nous disons, ces éléments-là, nous pouvons tenir compte, nous pouvons continuer à discuter de cela.
Merci.
Mais aujourd'hui, nous sommes face d'une situation qui est exceptionnelle. Est-ce que nous ne pouvons pas trouver une solution exceptionnelle, justement, pour nous permettre de sauvegarder la paix justement dans ce pays.
Merci,
parce que si on n'a pas les élections à cette époque-là, moi je crains le pire pour le pays.
Merci professeur, je vous redonne la parole tout à l'heure. Richard Kinoa, vous êtes ancien conseiller chargé des questions électorales au ministère de l'Intérieur, également sympathisant de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du consortium des ONG?
Oui, d'abord, il n'y a pas à craindre le pire et il n'y aura pas de conséquences fâcheuses pour un processus qui est suffisamment encadré par la CENI et par d'autres institutions légitimes du pays. Je crois qu'il n'y a rien à craindre. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est quoi? Effectivement, nous sommes dans une crise de croissance démocratique, de croissance de notre démocratie. Et ce qui fait que finalement, c'est tout le monde qui croit qu'il a le droit de pouvoir proposer une solution en ce qui concerne les élections, alors qu'il y a une structure qui est habilitée, il y a une structure légitime. C'est-à-dire, quand nous ne savons pas respecter la CENI, quand nous ne savons pas respecter la Cour constitutionnelle, comment est-ce qu'on peut finalement se dire démocrate, comment est-ce qu'on peut finalement respecter la démocratie dans notre pays? Je crois que la CENI a été claire dans ce qu'il a eu à proposer comme schéma en ce qui concerne l'enrôlement. Ici, c'est un enrôlement général. C'est un enrôlement général qui prend en considération toutes les catégories électorales, c'est-à-dire les locales, c'est-à-dire les provinciales, les législatives et les élections présidentielles. Il ne faudrait pas prendre une seule catégorie comme si il y avait une catégorie des élections qui serait beaucoup plus importante que d'autres. Non, toutes les catégories s'évalent et nous devons les respecter en tant que telles. C'est la raison pour laquelle la CENI, en collaboration avec d'autres structures internationales, a décidé finalement de procéder par un enrôlement général pour répondre finalement à la volonté qui a été exprimée et par la majorité et par l'opposition. Je crois que à ce niveau d'aujourd'hui, il n'y a plus débat, il n'y a plus débat comme tel parce que les choses évoluent, elles évoluent bien et ce que nous devons faire, c'est de mobiliser, de sensibiliser la population pour que finalement cet enrôlement puisse aboutir à un succès qui pourra finalement permettre notre pays à organiser les élections d'une manière beaucoup plus professionnelle.
En d'autres termes, c'est une proposition inopportune pour vous.
Absolument.
Et alors, le professeur Thierry Landou a démontré qu'avec sa carte d'étudiant, d'élève, on pouvait s'enrôler, et même les Congolais de l'étranger, les nouveaux majeurs, on peut les enrôler en un seul jour, Richard Kino.
Oui, c'est trop facile, monsieur le journaliste. C'est trop facile, c'est peut-être... il faut fournir d'efforts pour finalement comprendre quelle est la quintessence d'un processus électoral dans un pays en conflit, dans un pays post-conflit, dans un pays à haut risque, parce que notre pays est un pays à haut risque. Et il faut bien comprendre que la proposition telle qu'elle venait de nous être démontrée par le professeur Thierry, je crois que c'est vraiment une proposition trop facile qui ne peut pas tenir devant une analyse profonde, une analyse sérieuse en tout cas. Tout ce que je pourrais dire, c'est un faux débat, parce que la machine est déjà en marche. Nous devons nous mettre tout simplement dans le chemin pour que nous puissions permettre à la CENI de pouvoir réussir cette opération préélectorale importante qu'est l'enrôlement, la révision du fichier électoral.
Est-ce qu'on peut considérer que lorsque vous dites que la machine est en marche, vous parlez de la CENI et que les choses ont commencé à bien marcher, vous faites également allusion au dialogue?
Absolument.
Alors concernant le dialogue, le consortium dans sa déclaration dit ceci, le dialogue national inclusif ne peut surtout aucunement soumettre aux discussions les acquis sacro-saints du respect de la Constitution, de l'alternance politique constitutionnelle au risque de briser la souveraineté du peuple, mieux la paix et la stabilité nationale. C'est dans ce cadre restrictif que doivent s'inscrire la planification et l'organisation des élections, Richard Kinoa.
Oui, je pense qu'il faudrait vraiment faire attention à notre Constitution. Il ne faudrait jamais considérer une Constitution dans un jeune pays comme le nôtre comme un tabou, comme quelque chose qu'on ne peut pas toucher.
Non. Elle doit être modifiée à tour de bras,
tour de bras.
Pas, que l'on dort et que l'on se réveille.
Pas à tour de bras. Il y a déjà un texte, bien entendu, mais il faudrait aussi comprendre que ce texte a des imperfections, n'est-ce pas? Il faudrait aussi comprendre que ce texte a des imperfections, a beaucoup de contradictions. Lui a parlé de l'article 64. Qu'est-ce que dit l'article 64? Il dit quelque chose et en même temps son contraire. Et je crois que dans un texte constitutionnel, c'est très dangereux. Et même quand vous allez vous toucher à d'autres articles, c'est la même chose. Et je crois qu'il faudrait faire attention, ne pas considérer... Écoutez, quand vous prenez l'exemple d'autres pays, n'est-ce pas? On a eu à amender, on a eu à réviser. Pourquoi est-ce que nous, nous devons avoir peur d'affronter nos difficultés en face? Nous devons les affronter courageusement, dans la paix, dans la concorde, dans la stabilité, pour permettre à notre pays d'aller de l'avant.
Alors, le consortium des ONG, dans sa déclaration, dit également que le président de la République étant le garant du respect de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions publiques, ne gagnerait rien à tirer avantage d'une violation manifestement intentionnelle de la Constitution et partant de la continuité de l'État pour se maintenir au pouvoir, sinon la procédure de haute trahison qui serait ouverte à son encontre constituerait une cause d'empêchement donnant lieu à l'organisation de la vacance à son poste.
C'est un point de vue qui a été totalement balayé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je crois que l'arrêt de la Cour constitutionnelle a été très clair là-dessus. Donc il n'y a plus matière à débattre. Et là, le problème c'est quoi? Le problème c'est que nous nous retrouvons dans une crise de croissance de notre démocratie en même temps toutes les conséquences de cette crise de croissance, c'est-à-dire un déficit de la culture démocratique, un déficit de mentalité démocratique et finalement un déficit de la civilisation démocratique. C'est là le problème que nous avons. Alors tout le monde croit que quand il prend position, il a raison. Non, il faudrait voir les choses sans passion, il faudrait voir les choses sans sentiment pour pouvoir les approfondir, les analyser d'une façon intellectuelle et scientifique afin de pouvoir comprendre comment les choses se passent actuellement dans notre pays.
Merci Étienne. Vivien Kalongi, vous êtes politologue et analyste indépendant, également chercheur en résolution pacifique des conflits. Quelle est votre analyse de cette proposition du consortium des ONG? Vous avez suivi Richard Kinoa qui pense qu'elle est simplement inopportune.
Oui, merci beaucoup mon frère estimé patriote Alain Irung. J'en profite aussi pour saluer monsieur Richard Kinoa et le professeur Thierry Landou. En fait, je suis très estomaqué autour de ces tables, autour de cet échange, d'entendre certaines choses. Moi, dans ma peau de politologue, je me réalise que lorsqu'on pense que la Constitution, qui est la loi des lois, qui est tout simplement l'âme d'une nation, qui incarne la longévité même d'un État, soit ici entendu comme un simple document par lequel nous pouvons nous donner ce luxe-là de le revisiter à tout moment pour satisfaire nos intentions ou nos besoins. Là, ça m'écœure, là, ça me révolte en tant que celui qui a été initié à l'étude de l'État et du pouvoir. Dans ma formation, je sais très bien que l'importance d'une loi comme la Constitution, c'est réellement le soubassement d'un contrat social qui lie une population avec ses dirigeants. Et dans notre Constitution, il y a des articles verrouillés dans lesquels nous ne pouvons pas ici tergiverser pour se donner le luxe de les revisiter pour satisfaire nos besoins. Je pense que la majorité est composée des fils et filles de ce pays, notamment pour ce qui est de l'opposition. Et nous avons un seul patrimoine en commun qui est le Congo, que nous devons sauver. J'ai beaucoup salué en 2005, cet esprit patriotique qu'avait incarné le chef de l'État d'accepter de partager, n'est-ce pas, son pouvoir avec la formule 1 plus 4 pour nous permettre de sortir d'un processus vraiment dangereux et de ce fait de lancer notre pays dans un processus démocratique. La démocratie ne doit pas être considérée comme un prêt-à-porter, c'est un processus certes, mais que devons-nous faire? Nous devons comprendre de nous inculquer cette culture démocratique par notre comportement, par notre agir politique, par notre manière d'analyser les choses. Le Congo patauge dans la médiocrité parce que le mode d'avènement politique des opérateurs politiques actuels, c'est le mode qui a été incarné par la nomination. Voilà pourquoi vous trouvez
toute la classe politique, depuis les années 60, n'ont jamais été habitués au cycle électoral de bénéficier un mandat auprès du souverain primaire qui est le peuple. Voilà pourquoi vous trouvez les gens devant des situations très très importantes, ils cherchent vraiment à se distinguer dans des conciliabules. Aujourd'hui, vous voyez la chose, le dialogue, qui du reste va nous amener tout simplement à un accord visant, n'est-ce pas, à violer la Constitution. Moi, je m'insiste, j'en faux devant cette manière de voir les choses. Mais au contraire, je pense que ce groupe-là des ONG, l'État, ils ont raison de pouvoir penser de cette manière. Aujourd'hui, avec le fichier qui a été revisité par l'OIF, ces fichiers-là, je ne vois pas pourquoi on doit l'incriminer. Parce que ces fichiers, l'OIF, dans ses conclusions, a prouvé suffisance qu'il y a moyen de faire du toilettage dans ces fichiers. Et aujourd'hui, avec les nouveaux majeurs, même le jour même de l'élection, parce que nous avons pour circonscription électorale pour l'élection du président de la République, le Congo. Et c'est tout simplement facile d'organiser cette élection, parce qu'il suffit que les jeunes gens qui ne s'étaient pas fait enrôler en 2011 puissent s'amener avec un document d'étudiants, d'élèves, et venir s'enrôler le même jour de l'élection, aussitôt enrôlé, aussitôt voté.
Et vous pensez que c'est réaliste?
C'est réaliste, mon frère. Dans ce pays, c'est réaliste parce qu'en 2005, le professeur Thierry Land vous a démontré cela. Ça a été réalisé. Nous pouvons aujourd'hui, ça n'a pas été l'objet d'une conditionnalité quelconque pour obtenir la carte d'électeur que nous avons bénéficié depuis 2006. Donc aujourd'hui, on peut appeler le nouveau majeur de se présenter au bureau de vote et avec un document émanant de leurs institutions ou émanant peut-être de leur circonscription administrative, se présenter, se faire enrôler le même jour et voter aussi le même jour. C'est possible, il n'y a pas ici à s'inquiéter. Moi, je pense qu'il y a des intelligences qui se sont organisées pour nous amener à une situation de dépassement de l'obligation constitutionnelle afin d'entrer dans une transition qui, du reste, va nous amener certainement sur une crise. Mais si nous aimons le Congo, si nous pensons que le Seigneur a eu la grâce de nous donner un État, nous allons dépasser notre égocentrisme, nous allons dépasser nos intérêts mesquins pour raisonner Congo, voir que nous pouvons entrer grandement dans l'histoire à partir du processus électoral que nous avons enclenché depuis 2006.
Alors en ce moment, Richard Kinoa l'a dit, la CENI a déjà lancé des opérations, il y a le dialogue qui est en marche. Quel serait le mérite d'une telle proposition?
Le mérite d'une telle proposition, c'est de ne pas nous amener les troubles et de nous permettre d'entrer dans l'histoire, au moins en Afrique, au cœur de l'Afrique. Le Congo a su passer d'un processus déjà chèrement acquis, et le président en fonction, qui va sortir la tête haute, sera une référence en Afrique centrale, parce qu'il sera aussi une expérience qu'on aura consultée à tout moment, et étant aussi de ma génération, ça je le dis bien, moi je suis de 76, et le chef de l'État et de ma génération, il pourra entrer grandement dans l'histoire parce que les gens oublient, peu de gens ont assez de rigueur d'esprit de distinguer le vrai du faux et le fait de la fiction. Moi, je pense que le chef de l'État a une occasion de ne pas écouter les politiciens des années 60, de ne pas écouter tout ce qui viennent de ces modes d'avènement politique dénomination et qui demeurent au pouvoir, qui ont déjà été rattrapés par la boulimie du pouvoir. Il a le temps ici de marquer l'histoire de son époque pour vraiment permettre à ce que le processus soit libéré.
Merci. Professeur Thierry Landou, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Chimbulu dans le Kasaï central.
Maître Godefroy Chitoko, à partir de la ville de Chimbulu dans le Kasaï central. À mon avis, ce groupe d'ONG n'a pas tout à fait raison, dans la mesure où les Congolais ont besoin des élections crédibles, transparentes et apaisées, et non pas les élections bâclées. Mieux vaut un bon accord politique qui sera dégagé. Au cours du dialogue, la question que je me pose est celle de savoir si ces ONG ont des représentants dans le dialogue ou pas, car l'unique endroit indiqué pour traiter de telles questions, pour le moment, reste le dialogue. Sinon, leurs propositions resteront que des lettres mortes.
Professeur, j'ajoute cette réaction de votre collègue, le professeur Ignace Ndala, qui nous écrit de Colézy, qui dit « Nous sommes à un moment très crucial de l'histoire de notre pays, tel que l'expertise de tout un chacun est d'une importance incalculable, pourvu que son apport soit non seulement objectif et réalisable, mais en plus devrait-elle être présentée à la bonne porte, ou alors elle ne serait qu'une simple spéculation. Certains Congolais sont au dialogue, voilà une porte à proposition, professeur. »
Ok, je crois qu'il faut faire la part des choses. Vous savez, on est en train de parler de démocratie et on a peur justement d'avoir un peuple qui est proactif, qui prend des initiatives, qui essaie d'aller dans une direction et qui exprime sa volonté. Hein? Je crois que quand des citoyens émettent des avis, dans une démocratie qui fonctionne, on va écouter ces avis, on va les analyser parce qu'en fait ces avis peuvent nous aider, ces initiatives peuvent nous aider à aller de l'avant et à construire autre chose que ce que nous sommes en train de faire. Alors quand on dit que non, la CENI a démarré le processus, la CENI ne travaille pas par défi, la CENI travaille pour le bien de ce pays, pour le bonheur de ce peuple. S'il y a des initiatives qui sont proposées à la CENI, mais la CENI peut les intégrer si elle les trouve convenables et améliorer le système. C'est une proposition. Pourquoi on s'effarouche? Parce que tout simplement, nous avons refusé de nous inscrire dans le cadre de la ligne qui a été préétablie. Mais nous ne pouvons pas. Parce que, tout simplement, j'ai entendu mon frère dire qu'il n'y aura pas de pire. Qu'il regarde, qu'il lise les signes des temps. Hein? Nous sommes presque comme à la fin du règne de Mobutu. Aujourd'hui, dans toute la ville, il y a eu des endroits où nous ne pouvions même pas circuler convenablement parce qu'il y avait des échauffourées à gauche et des échauffourées à droite. Et hier soir, moi j'habite Lemba, ceux qui étaient au terminus, il y a eu des échauffourées la nuit. On ne savait pas ce qu'il y avait. Et les gens sont partis dans toutes les directions. Donc, il faut lire les signes des temps. Il faut cesser de jouer à l'autruche et de ne pas voir ce qui est en train d'arriver. Et pour que ça n'arrive pas justement, il faut que les gens arrivent à trouver des solutions, à proposer des pistes d'une certaine originalité et qui seront peut-être longue date. Alors, deuxièmement, on dit on va avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Chers amis, ça c'est un slogan. C'est un slogan. En 2006, on voulait des élections libres, transparentes et apaisées. Elles ne l'ont pas été. Elles ont abouti par une guerre dans cette ville, où on s'est tiré à boulet de canon, et c'est celui qui a gagné la guerre qui est devenu président de la République. On ne le dit pas assez. En 2011, on nous a dit qu'on voulait avoir des élections transparentes et tout ça. Tout le monde a reconnu qu'il y avait eu tricherie, qu'il y avait eu fraude massive. C'est pas moi, c'est toute la communauté nationale et la communauté internationale. Alors, vous nous parlez de quelles élections là? Il n'y aura jamais des élections parfaites. Je vous ai dit, nous sommes là devant une situation d'exception. Qu'est-ce que nous faisons face à une situation d'exception? Est-ce que nous continuons à dire qu'il faut aller au dialogue? Je ne sais pas si vous avez suivi l'ouverture du dialogue aujourd'hui. On dit quoi? Ah non, nous avons fait l'ouverture, nous prendrons 2 jours pour aller à la pêche, aller chercher les gros poissons. Ça signifie que ceux qui sont là-dedans sont des menus fréquins. Donc il faut faire attention. C'est ça, lire aussi les signes des temps. Moi, je ne suis pas contre des Congolais qui se mettent autour d'une table pour discuter, mais je pense qu'il est grand temps. Après ces 2 cycles d'élection, après ce processus électoral qui est allé carré dans toutes les directions, je crois qu'il est grand temps, même si on se retrouve autour d'une table, de dire quelles sont les règles du jeu. Qu'est-ce que nous avons établi comme règles du jeu et comment nous les respectons? Mais si on commence à balayer les règles du jeu sous prétexte qu'on peut reviser, nous sommes jeunes, nous pouvons recommencer, mais on ne recommence pas juste pour des besoins égoïstes de certains parmi nous.
Professeur.
On recommence parce qu'on veut faire du bien à la nation. C'est ça l'enjeu.
Professeur, enrôler les nouveaux majeurs, les Congolais de l'étranger en un jour, à ce moment-là, les doublons qui sont des milliers, les décédés, qu'est-ce qu'on en fait?
Mais écoutez, puisque vous dites que vous allez enrôler, si vous êtes décédé, vous ne serez pas enrôlé. Puisque celui qui va se faire enrôler, il se présente avec sa carte d'identité devant le gars qui enregistre son bureau de vote le jour du vote. Si vous êtes décédé, vous n'êtes pas là. Comment voulez-vous qu'on vous enrôle?
Merci.
Je crois que nous sommes en train de parler de 2 choses différentes. Il y en a qui parlent entre autres du fichier, de l'ancien fichier qui a été visité par l'OIF. Mais parlons-en, ce fichier-là. On a mis combien d'argent là-dedans pour visiter le fichier? Et aujourd'hui, la même CENI nous dit que ce fichier-là est bourré de doublons, on ne peut pas l'utiliser. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent?
Merci, professeur.
Qui a utilisé cet argent-là?
Merci, professeur.
Aujourd'hui, on recommence encore l'enrôlement pour toute la nation.
Merci, professeur. Richard Kinoa, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kindu au Maniema.
Je m'appelle Bienvenue Kazoni depuis Kindu. À mon avis, il est vrai que la tenue de l'élection présidentielle est encore possible dans les délais constitutionnels, Mais tant que la volonté politique de nos dirigeants n'est pas manifeste, je pense que le respect du délai reste hypothétique.
J'ajoute cette réaction de Chouk Mouigiroua qui nous écrit de Lubumbashi. À mon avis, je trouve aussi que rien n'est impossible, mais le plus grand problème est que les décideurs n'ont pas l'intention de respecter leurs engagements de peur de ne plus se revoir aux affaires s'ils organisent les élections. Et c'est la raison pour laquelle ils préfèrent plus le dialogue pour finir par se partager les postes. Richard Kinoa.
Non, il n'y a nulle part où on a dit ou on a écrit que les dialogues consistaient à se partager les postes. Les dialogues, ce n'est pas une décision de Congolais, c'est ce que les gens doivent comprendre. Les dialogues ont été décidés à Addis Abeba en 2013, quand on avait déjà constaté qu'on était dans l'impossibilité de pouvoir organiser les élections locales et provinciales, et que les Sénats, n'est-ce pas, avaient déjà glissé, et que les assemblées provinciales avaient déjà glissé, ainsi que le gouverneur. C'est ainsi que l'UIA, l'ONU et bien d'autres organisations, la CIRGEL, ont fait cette recommandation de pouvoir organiser les dialogues dans notre pays. Je ne crois pas que ce soit vraiment une mauvaise chose. C'est une voie importante qui permet aujourd'hui les uns et les autres de se mettre autour d'une table pour parler de l'avenir de notre pays. C'est très important. Je crois qu'il n'y a personne qui refuse d'aller aux élections. Mais quelle élection alors? C'est-à-dire, compte tenu de deux expériences que nous avons connues, on a estimé qu'il faudrait cette fois-ci arriver à aplanir les choses, à planifier les choses de telle sorte que nous ne puissions pas revivre ce que nous avons vécu en 2006 et en 2011. Je ne pense pas vraiment que ce soit une mauvaise décision. Alors, tous ceux qui prétendent avoir des initiatives, mais c'est bien beau, je ne pense pas qu'il puisse seulement y avoir monsieur le professeur, c'est pas Thierry Landou qui aurait des initiatives. Il y a aussi d'autres compatriotes, d'autres citoyens congolais qui ont énormément des initiatives. Mais est-ce qu'il faut publier ces initiatives-là de quelle manière? On peut glisser, n'est-ce pas, de telles initiatives aujourd'hui au dialogue. Qui en déciderait, qui verrait de quelle manière et il pourrait en tenir compte. Mais de toute façon, est-ce que la CENI a besoin de recevoir des pareilles initiatives? La CENI, c'est une structure professionnelle, une structure hautement technique qui a une façon de travailler, n'est-ce pas? Et qui ne peut pas se laisser faire comme ça parce que tel est venu dire voilà ce qu'il faudrait faire, tel autre viendrait le lendemain, finalement, on serait dans quelle république? Ça serait une véritable anarchie et une véritable cacophonie. Je crois que nous devons respecter les dialogues ainsi que les gens qui sont là-bas pour parler de l'avenir de notre pays.
Désiré Yakanga nous écrit de Lubumbashi, la proposition est bonne et bénéfique pour la nation congolaise, mais nous savons bien qu'il n'y a pas de volonté politique dans le camp de la majorité, car si cela était le cas, nous n'allions même pas parler du dialogue aujourd'hui.
Non, les problèmes, ce n'est ni de la majorité, ni de l'opposition. C'est un problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème du peuple congolais. Quand on a prévu ces dialogues-là à Addis Abeba, bon, les institutions légitimement élues, telles que l'Assemblée nationale, c'est pour moi le Sénat, auraient pu dire, mais écoutez, nous n'en voulons pas. Mais il n'y a personne qui a, jusqu'à la preuve du contraire, dénié ces dialogues. Tout le monde a compris que ces dialogues allaient au moins nous permettre de pouvoir discuter en face de nos difficultés pour pouvoir baliser les voies afin de pouvoir atteindre les objectifs escomptés, à savoir les élections apaisées, les élections crédibles, démocratiques, qui pourraient nous amener à un développement harmonieux et rapide.
Giscard lui dit, avec l'évolution de la technologie, cela peut être réalisable en moins de quelques jours, car il faut passer les commandes, réquisitionner les kits, former les opérateurs de saisie et déployer les kits et les agents dans toute l'étendue de la RDC. Notez bien, ce déploiement peut se faire en un jour et la révision du fichier électoral et la compilation d'une manière automatique, si et seulement si tous les kits d'enrôlement sont en réseau. Richard Kinoa.
Je suis surpris parce que je ne pense pas que la CENI qui a pris la décision, n'est-ce pas, c'est combien de kits électoraux qu'il faudrait pour une ville, pour une localité. Ce sont des choses qui ne se font pas par hasard comme ça, parce que vous êtes quelque part où vous avez réfléchi. Non, c'est-à-dire, il y a des techniciens, il y a des experts qui y réfléchissent mûrement et qui arrivent finalement à définir, les choses d'une manière rationnelle et scientifique. Ça ne se fait pas comme ça par hasard où vous allez dire, écoutez, en un jour, c'est pratiquement impossible, on ne peut pas réussir une opération comme cela en un seul jour, c'est une utopie et je crois que c'est pas possible.
Étienne Vivien Kalongi a pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
C'est Salomou Bin Kangouli depuis la province de la Tchopo dans la ville de Kisangani. J'espère que ces coalitions vont troubler de plus en plus l'atmosphère politique du pays, car je me demande pendant tous ces temps où ils étaient avec cette proposition. Aujourd'hui, où l'eau est versée par terre, où ils ont maintenant soif, car cette proposition est bonne, mais ça arrive trop tard. Car pour enrôler, ils auront besoin même d'une semaine, mais pas d'un jour. Le déploiement de matériel prend aussi du temps. En conclusion, je pense que c'est trop tard qu'il se prépare prochainement pour éviter des troubles.
David Kanda Mokote de Goma, en Nord Kivu, lui dit « Ne sert à rien de nous précipiter à organiser les élections pour ensuite retomber dans les vagues de contestation. Faisons confiance aux dialoguistes, dit-il, car nous sommes sûrs qu'ils vont trouver une solution efficace pour notre pays. » Étienne Vivien Kalongi.
Oui, merci beaucoup, mon frère. Je m'en vais directement répondre à mon frère Salomou de la Tchopo. Mon frère Salomou, moi qui vous parle, j'ai eu mon diplôme d'état à Isiro. Je connais bien le coin. Je pense que si vous êtes patriote et que vous vivez du jour le jour, vous voyez ce que vaut un Congolais dans ce coin, vous n'allez pas tenir ce genre de langage. Il est possible, parce que moi je sais très bien qu'avec l'apport de la MONUSCO, qui a permis en 2006 le déploiement du matériel de l'ancien CII, et avec l'apport de la communauté internationale, il y a possibilité de déployer tout le matériel avant même le jour du scrutin. Et dès que les matériels sont déployés, moi-même qui vous en parle, j'en ai chargé dans les Ilochines russes au sein de la MONUSCO à l'époque. J'en connais quelque chose. Ici, c'est une question de volonté politique, mon frère. Et soyez très prudents avec le discours que nous tiennent les politiciens, parce que lorsque un politicien parle, il voit ses intérêts. Ici, nous voyons le Congo. Il y a un processus qui a été déjà relancé très chèrement depuis 2006, que nous devons ici soutenir pour que le Congo aille de l'avant. Je pense que tous nous devons réfléchir dans le sens comme l'ont fait ces groupes des ONG qui ont pratiquement prouvé ici à la face du monde que ce qui nous tient comme langage par la CENI n'est que du mensonge et du plus grand mensonge. Nous avons ici essayé d'expérimenter quelque chose de très important avec l'identification de tous les abonnés de compagnies cellulaires. Lorsque Vodacom et RTL a pu identifier, a pu exiger que tous ceux qui détiennent une carte SIM de Vodacom, vous avez vu que cette identification n'a pas pris beaucoup de temps, nous a pas coûté autant de mois. Et je pense que si toutes les intelligences peuvent être réunies pour l'amour du Congo, nous pouvons ici sauver notre Congo, nous sauver notre pays, dépasser réellement dans un processus que nous avons souhaité, dont le seul souverain primaire sera le peuple. Que ça soit inconciliable des politiciens en mal de repositionnement, soucieux de préserver leurs prérogatives, et que vous pensez qu'ils peuvent raisonner. Aujourd'hui, quand vous voyez le taux de jeunes gens qui sont au chômage, diplômés universitaires, diplômés d'État, pouvez-vous savoir que nos politiciens que nous avons hérités par le mode d'avènement des nominations peuvent-ils être redevables au peuple qui a aujourd'hui les choses en main de donner le mandat à quiconque et aussi de mettre de côté ceux qui n'ont pas honoré leur engagement.
Étienne Vivien Kalongi, le consortium dans sa déclaration, au point 4, demande notamment aux Congolais et Congolaises de produire eux-mêmes les urnes, les isoloirs, l'encre indélébile et les bulletins de vote. Est-ce réaliste?
C'est réaliste par le Congo, parce que le Congo ne manque pas de l'argent. Allez-y comprendre que le Congo qui manque l'argent d'organiser les élections, c'est Congo là s'achète des avions. C'est que le Congo a de l'argent. Allez-y voir combien le Congo dépense de l'argent pour, n'est-ce pas, bâtir des immeubles qu'on appelle des immeubles intelligents. C'est que le Congo a de l'argent. C'est une question de la volonté politique. Et ici, je souligne bien la question de la volonté politique. Parce que même le sens du dialogue qu'on nous présente actuellement ne révèle pas son vrai caractère. Nous sommes en face, ici, d'une majorité qui tient à ce qu'elle préserve son pouvoir. Ça, il faut se le dire. Moi, je suis un analyste. Je vois les choses en face. Parce qu'il est aussi d'une autorité dans toute démocratie, que ceux qui ont le pouvoir puissent le préserver. Ouais, et l'exercer le plus longtemps possible. Mais ils doivent le faire en conformité avec les règles démocratiques.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à certains observateurs qui pensent que cette proposition est conflictogène, elle peut faciliter la tricherie dans certaines conditions?
Non, ça c'est un point de vue erroné. La tricherie, dans toutes les élections, il y en a, mais il faut lutter pour nécessairement contourner cette tricherie-là. Même sous d'autres, c'est même aux États-Unis, vous avez vu l'élection d'Al Gore avec Bush. Dans des pays de vieilles démocraties. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ici qu'on vous donne un discours comme un gros mot pâté collé aux dents pour que vous puissiez en croire et en faire l'éloge. Non. Il faut que nous puissions respecter l'alternance. Nous sommes arrivés à une phase où le chef de l'État est en son second et dernier mandat. Moi, je pense que mon compatriote Richard pouvait ici, à ce stade ici, développer un discours où, dans leur camp de la majorité, ils ont un dauphin du chef de l'État. À ce moment-là, nous n'allons pas ici nous camponner dans des histoires de dialogue, merci, mais nous aurons vu que la majorité s'est déjà préparée pour leur alternance, merci, pour conserver leur pouvoir, avec un dauphin du chef de l'État. Merci. Ça, nous pouvons dire bravo à la démocratie. Mais lorsqu'on nous amène à une démocratie à deux vitesses, ou non, maintenant qu'il est au fin mandat, non, nous devons aller au dialogue. Merci. Dialoguer pour violer la Constitution, mon frère.
Merci. Professeur Thierry Landou, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. J'ai posé la même question à Étienne Vivien Kalongi. Vous demandez aux Congolais et Congolaises de produire eux-mêmes les urnes isoloires, encres indélébiles, les bulletins de vote. Comment, dans la pratique, cela se passerait-il brièvement?
Écoutez, d'abord, est-ce que nous pouvons comprendre qu'un pays qui dit qu'il est pauvre puisse avoir comme matériel électoral un matériel à usage unique? Vous vous souvenez, en 2006, les urnes, les isoloirs, même l'encre indélébile, nous avons dû l'importer. Et ce pays qui n'a pas d'argent, alors que dans ce pays, il y a du matériel, il y a du bois, il y a des treillis moustiquaires, des treillis qu'on peut utiliser. Il y a l'ingéniosité de nos menuisiers ici. Il y a plein de jeunes qui sont sans boulot. Est-ce que vous imaginez les heures de travail que cela donne à l'étranger? Est-ce que vous imaginez l'argent que nous perdons pour aller construire des urnes à l'extérieur? Est-ce que vous imaginez l'argent que nous perdons à construire même des isoloirs en carton que l'on jette après? Alors, les gens vont vous dire non, c'est pour la transparence des élections, il faut des urnes transparentes et tout ça. Mais en 2005, on avait des urnes transparentes. Ces élections n'étaient pas transparentes. En 2011, nous avons eu des urnes transparentes. Ces élections n'ont pas été transparentes.
Et en guise de conclusion, professeur, comment vous en prévoyez la suite du processus électoral?
Je dis que le peuple peut fabriquer ce matériel. Si aujourd'hui nous nous organisons justement pour faire cette initiative citoyenne, dans chaque quartier, dans chaque CVB, dans chaque cellule, on peut construire une urne pourvu qu'on se communique ensemble quelles sont les mesures de cette urne. Hein? Et puis, on peut le faire avec le matériel local. Et à ce moment-là, nous allons épargner de l'argent. Même quand on dit qu'il faut que la Monusco puisse distribuer le matériel à travers. Mais les urnes, merci, seront fabriquées localement. On n'aura pas à les transporter, encore moins les isoloirs. L'encre indélébile.
Conclusion, professeur. Concluez, professeur. Concluez, l'émission, oui, touche à sa fin.
Oui, je conclue. Je dis, l'encre indélébile, les chimistes, il y en a plein dans ce pays. Est-ce que les jeunes Congolais ne peuvent pas produire de l'encre indélébile? Il faut qu'on importe ça en Chine. Les bulletins de vote. Les bulletins de vote, nous avons l'hôtel de monnaie ici. Pourquoi l'hôtel de monnaie ne peut pas imprimer nos bulletins de vote? Merci. On dira, non, c'est pas sécurisé et tout ça, mais on a vu des avions atterrir ici avec des bulletins truffés.
Merci, professeur Thierry Landou. Richard Kino, conclusion, le Congolais peut mettre en place, inventer l'encre indélébile, ainsi de suite. Vous avez suivi le professeur Thierry Landou.
Je suis tout à fait d'accord, mais je pense qu'il faudrait toujours commencer par quelque part. Il y a ce qui s'est fait à court, à moyen et à long terme. Mais je pense que c'est un souhait. C'est un souhait que moi aussi je pourrais émettre. Mais je pense à ce moment, il faudrait que nous puissions être pragmatiques et réalistes. Les élections auront lieu, laissons la CENI faire son travail, laissez aussi les dialogues faire
son petit bonhomme de chemin. Je crois qu'il ne faudrait pas être pessimiste et croire que les choses ne pourraient pas marcher, qu'il y aurait des troubles. Je ne peux pas comprendre qu'un Congolais puisse envisager les choses de cette manière-là. Est-ce que nous aimons notre pays quand nous devons envisager les choses dans ce sens-là? Je ne pense pas. Je crois que les choses iraient mieux. Merci. Et les gens devraient se mettre tranquillement pour attendre la fin de l'enrôlement.
Etienne Vivien Kalongi, conclusion.
Je vais conclure par l'article 66 de notre Constitution qui nous impose un devoir collectif de la solidarité nationale. Et je pense que le facilitateur à ce stade ici, il doit avoir un petit brin de dignité et de fierté pour sa personne afin de laisser ce qu'il est en train de faire. Tout Congolais que nous sommes obligés de nous entendre, de nous aider afin que nous puissions sortir de cette crise par une victoire que le peuple va triompher à partir de notre processus démocratique.
Merci. Cette émission est terminée. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.